Daniel 8, un chapitre qui n'est pas trop loin en termes de chapitre 7, sauf que c'est complètement différent. Et donc, il faut prêter beaucoup d'attention. C'est pour ça que nous allons faire des tableaux. Et justement, il y avait quelques grands problèmes d'interprétation. En fait, il y avait même une des plus grandes sectes qui sont issues d'une mauvaise interprétation de ce chapitre. Je parle des témoins de Jéhovah. Tout ça, en fait, ça a commencé avec un homme. On ne va pas donner son nom parce qu'il était quand même un homme honnête. On va voir le passage où il a mal interprété. On parle d'un certain nombre de soirs et matins. Mais lui, il a spiritualisé ses soirs et matins pour pouvoir dire des années. Et avec beaucoup de mathématiques et tout, il a créé toute une prophétie où il disait que le Seigneur va revenir en 1824. Bon, puisque ça n'a pas arrivé comme ça, et c'est vrai que son église a beaucoup grandi. Et donc, il a recalculé, et puis il y avait un deuxième essai. Mais le Seigneur n'était pas au rendez-vous, évidemment. Et il y avait tellement de monde qui était influencé, touché par ça, qu'on l'appelait la grande déception. Et à cause de ça, il y avait plusieurs personnes qui ne voulaient pas lâcher ça. Notamment une dame se disant prophétesse, Ellen White, qui elle a inventé d'autres choses et monté tout un autre système. Et donc, je crois qu'il est très important de regarder ce qui est dit dedans. Une chose que je trouve assez intéressante en faisant des recherches là-dessus, Jean Calvin a sauté le chapitre. C'est marrant parce qu'il a bien travaillé le chapitre 7, bien travaillé le chapitre 9, mais chapitre 8, bon, on ne sait pas. Pourtant, il y a beaucoup de choses qu'on puisse reconnaître de chapitre 7. Un thème un peu pareil, sauf que c'est complètement différent. Troisième année du règne du roi Belshazzar. Moi, Daniel, j'eus une vision après celle que j'avais eue précédemment. Encore une fois, on n'est pas encore arrivé à ce stade où Belshazzar voit l'écriture écrite sur le mur. On est une bonne décennie, merci, avant ce temps-là. Donc très important à se situer dans l'histoire. Puis il voit une vision. Alors qu'est-ce que c'est une vision? Parce qu'on parle beaucoup d'une vision, avoir une vision. Alors d'un sens léger, les gens parlent des visions ou avoir une vision comme si ils ont reçu une idée qui s'est confirmée par la suite des choses ou une impression qu'ils ont sur le cœur. Ils ont une idée dans leur ministère, un but qui leur est donné par Dieu. Et donc on appelle ça souvent une vision. J'ai une vision, ou ma vision dans le ministère, c'est... Et puis on parle de ce que Dieu leur a donné comme un but ou une direction à aller. Alors ce n'est pas ça qui est dit dans Daniel. Là, une vision, c'est comme un rêve, donc comme on a dit dimanche, un rêve qui est vraiment vrai, ce genre de rêve qui est tellement marquant que même quand on se réveille, on est dedans, toujours. Sauf une vision, ça se passe pendant qu'on est éveillé. Ce n'est pas pendant qu'on dort. Alors, quand on pense au livre d'Apocalypse, par exemple, et tout ça, Jean a eu des visions. Et Jésus lui a parlé et donné des choses, des prophéties, des choses qui vont arriver. Mais il est important de comprendre que lui, comme Ézéchiel, comme Ésaïe, ils ont vu des choses, même Jérémie, ils ont vu des choses. Pourtant, ils étaient aussi réveillés que vous et moi. Mais c'était si réel qu'ils ont l'impression de pouvoir toucher ou de rentrer dedans. Et comme on a vu la semaine dernière, Daniel, après avoir vu ces choses, il fut épouvanté. Alors, il voit encore une vision. Je regardais au cours de cette vision, et tandis que je regardais, il me semble que j'étais à Suse, la capitale, dans la province d'Élam, et pendant que je regardais la vision, je me trouvais près du fleuve d'Oulai. Alors, Suse, capitale d'Élam, devient plus tard le capitale de l'empire des Perses et des Mèdes. Mais attention, parce qu'à cette époque, ce n'était pas encore ça, c'était simplement une petite capitale comme, si vous voulez, Marseille et là où se trouve la préfecture pour la région PACA, c'est un petit peu le capitale de la région. C'est un petit peu ça à l'époque. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce mot capitale, certains le traduisent capitale, d'autres traduisent comme citadelle ou palais. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que à l'époque de Daniel, il n'y avait pas de citadelle. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important? C'est que après, donc, que les Perses et les Mèdes s'installent, ils ont construit justement un citadelle là-bas. Et c'est là où se passe le livre d'Esther, par exemple. C'est là où se passe Néhémie. Et même une partie d'Esdras. Alors c'est intéressant parce que, du coup, il est dans une vision et il regarde autour de lui. Il dit, bon, il me semble que je suis à Suse. Et soit, il dit, bon, il me semble que je suis à Suse et il y a un citadel à Suse, ou bien je suis dans la capitale. Donc les deux sont possibles. Et je levais les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve et avait deux cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la dernière. Alors, je vis le bélier, verset 4, qui frappait de ses cornes à l'ouest, au nord et au sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et personne ne pouvait délivrer de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait et grandissait. Ses conquêtes de l'ouest, du nord et du sud, et il est imbattable et il grandit. Ce qui est bien avec ces rêves ou cette vision, c'est que ce sont des choses assez claires et reconnaissables. Donc, on peut très bien imaginer. Alors, comme je prêtais attention, voici un bouc venait de l'Occident en rasant toute la surface de la terre sans la toucher. Ce bouc avait une corne spectaculaire entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait deux cornes et que j'avais vu se tenant devant la fleuve. Il courut sur lui dans l'ardeur de sa force. Alors, il va direct vers le bélier, toute sa force. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'exaspérait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre, le piétina, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Son exaspération, il frappe le bélier, brise ses cornes et le piétine. Le bouc devint très grand, mais lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa. Quatre cornes spectaculaires s'élevèrent à sa place aux quatre vents des cieux. Donc la plus grande brise et puis quatre prennent sa place. Vous l'imaginez? De l'une d'elles, sortit une corne très petite qui s'agrandit beaucoup vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux et fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles et les piétina. Donc c'est la corne dont on parle. Donc elle se lève, elle continue jusqu'à grandir, jusqu'à ce qu'elle touche donc les étoiles, et fait tomber par terre et puis elle marche dessus. Cette corne s'élève jusqu'au chef de l'armée, avec un grand C, c'est en majuscule. Le sacrifice perpétuel lui fut retiré. Donc, sacrifice perpétuel, on parle là du temple, parce que c'est écrit dans la loi de Moïse qu'il faut qu'il y ait ces sacrifices perpétuels, de toute façon avec toutes les offrandes du péché, du matin, du soir, avec les offrandes de communion, bon c'est sans cesse. Mais ils disent non, ça va être retiré, arrêté, à cause du crime. Et la corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Donc il arrête le sacrifice, il jette à cause du crime, il jette la vérité par terre, mais il réussit dans tout ce qu'il fait. J'entendis parler un saint et un autre saint, donc avec ce qu'on a vu la semaine dernière, donc ce sont des anges, donc il parle, maintenant il entend des anges qui parlent autour. Il dit à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel ?» Sur le crime dévastateur, sur le sanctuaire et l'armée qui sont piétinées. Bien aussi, on peut aussi dire, c'est intéressant, ça va vous rappeler des choses. Jusqu'à quand durera la vision sur le sacrifice perpétuel, donc au temple, sur l'abomination de désolation, sur le sanctuaire et l'armée qui sont piétinées, ou les étoiles qui sont piétinées? Il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera rétabli. Alors, maintenant vous avez la vision. Il y a encore une chose importante à ajouter. Vous ne le savez pas, peut-être en lisant comme ça, mais à partir de verset 1 et jusqu'à la fin de ce livre, le reste est écrit en hébreu. Donc c'est très important, parce que ça marque un changement radical, notre audience, parce que à Babylone, bon peut-être il y a certains qui parlent hébreu, mais pas tout le monde, ce n'est pas le langage courant. Il vise, ou cette prophétie, cette vision, cible ceux qui parlent hébreu, puisque c'est la langue qui a été créée. Juste avant de commencer avec l'interprétation qui nous est donnée, est-ce que vous avez quelques idées de quoi il s'agit? Sans lire plus tard dans le texte, sans tricher, je veux dire. La réponse est parfaite parce que c'était la réponse de Daniel. Regardez, verset 15. Tandis que moi, Daniel, je regardais cette vision et que je cherchais à la comprendre, vous voyez, il n'était pas très au courant lui non plus. Voici que se tenait devant moi quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme. Alors, ce mot pour homme, c'est intéressant parce que ce n'est pas le mot que tout le monde connaît, le mot ish, ce n'est pas ce mot, mais c'est Gabor, je crois, qui veut dire grand homme, si je ne me trompe pas. Oui. Alors, donc il voit ce grand homme, l'apparence d'un homme. Et j'entendis une voix au milieu de l'oulai, cria, Gabriel, fais comprendre la vision à celui-ci. Alors, c'est intéressant parce que là, on parle de ce grand homme, donc Gabor, et puis on lui donne un nom à cet ange et on dit « Gabriel, donne-lui la vision ». Alors, c'est fou parce que Gabriel, donc c'est à partir de ce même mot, Gabor, mais avec un « L », qui veut dire pour Dieu. Donc, Si on met les deux mots ensemble, qu'est-ce qu'on a? Oui, un homme fort pour Dieu. Et qu'est-ce que c'est, ce Gabriel? On le reconnaît, je pense, parce qu'il était dans le Nouveau Testament. Il est l'ange qui donne des nouvelles. Et des nouvelles très importantes. On peut être sûr que si c'est Gabriel qui donne la nouvelle, il faut bien écouter. Surtout parce que si vous rappelez de ce qui s'est passé dans l'évangile selon Luc, il y avait un sacrificateur dans le temple qui ne voulait pas tout à fait croire à ce qu'a dit donc Gabriel lors d'un message. Je parle de Zacharie. Et il fut frappé, il était muet. Donc, lorsque Gabriel donne des infos, il faut prendre note. Il vint alors près de la place où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Encore, on ne peut pas trop parler de l'authentique rencontre avec le surnaturel. Il y a beaucoup de prétendants, de visionnaires, et des gens qui prétendent voir des anges, et ils en parlent très légèrement, ils en tournent un profit, et quand quelqu'un voit un ange, ce n'est jamais une chose légère. Là, il est effrayé, il dit, je tombais la face contre terre. Ça, c'est plutôt normal. Et ça, c'est pourquoi aussi, dans le livre de Jude, il est dit, oui, il critique ceux qui parlent légèrement des anges et des êtres célestes dont ils n'ont pas la connaissance. Je pense notamment à ceux qui parlent très légèrement de Satan, comme s'ils ont tout pouvoir sur eux. Et oui, Jésus-Christ est plus fort que Satan est plus fort que tout démon. Mais nous, en tant que nous-mêmes, devant ces êtres-là, si nous battons par nos propres forces, nous ne pouvons pas se tenir. Il est donc important aussi de garder ce respect. Mais on peut aller encore plus loin. Parce que nous savons que Jésus, lorsqu'il s'est combattu contre le diable, il a cité l'écriture comme arme principale. Et ça nous montre surtout l'obéissance à cette parole, la puissance de la parole qui va au-delà de leur force aussi. Et donc en allant encore plus loin, chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous lisons donc la parole de Dieu. Donc, s'il faut prendre note lorsque Gabriel parle, combien de plus il est avantageux pour nous de prendre note quand nous ouvrons la Bible et nous la lisons, puisque c'est la parole de Dieu. C'est comme Dieu nous parlait. C'est sa parole, parce qu'il nous parle. Alors, il m'est dit, comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Premier indice, donc, c'est une prophétie des fins des temps. Mais il va aussi dire à la fin, donc verset 26, la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision car elle se rapporte à des temps éloignés. Donc, c'est pour la fin des temps, mais aussi c'est pour des temps éloignés. Éloigné de l'époque de Daniel. Alors, rassemblant donc les indices, c'est écrit en hébreu, destiné à ceux qui lisent hébreu. Deuxièmement, c'est d'une part pour la fin des temps, d'une part pour des temps éloignés du moment où il reçoit la vision. Alors, c'est ce genre de prophétie où nous voyons une chose et dans la chose, il y a deux temps qui jouent au même moment. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la fureur. car il y a un temps fixé pour la fin. Aussi, une autre chose importante, il y a un temps fixé pour la fin. Et donc, ça, c'est important pour nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent dire que nous pouvons faire revenir le Seigneur. Nous préparons le chemin pour le Seigneur. Comme si c'était à nous et par nos efforts que nous l'amenons sur terre. Or, ici, nous voyons, non, il y a une époque et c'est fixé. Et ça nous renvoie vers ce que Jésus a dit en Matthieu 24. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure, mais qui? Qui le sait? Le Père. Ce jour est fixé par le Père. Le bélier que tu as vu et qui avait deux cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Alors regardons donc ce bélier. Et ce qui est intéressant, c'est que, bah oui, ça colle parfaitement. Pourquoi un bélier? Parce que, étrangement, les Perses avaient le bélier comme leur symbole de leur peuple et de leur royaume. Ils avaient ça sur leurs pièces de monnaie. Ils avaient ça aussi dans leurs bijoux. Le fait qu'il se trouve à Suse, tout ça colle parfaitement. Encore plus, il avait deux cornes, mais une qui était plus large que l'autre. Les Mèdes et les Perses n'étaient pas égaux. Les Perses étaient les plus forts. Et pas seulement ça, lorsqu'il disait qu'il frappait à l'ouest, le nord et le sud, ça c'est l'exact parcours que ce royaume a fait pendant leur conquête. Dans cet ordre-là, d'abord vers l'ouest, donc on pense à Babylone et puis Lydie, puis vers le nord en montant jusqu'au mer Caspien et puis descend vers le sud en allant jusqu'à Égypte. Mais ils ne sont jamais allés vers l'est, comme il est dit. Et effectivement, ils étaient imbattables. Et ça grandissait, c'était le plus grand royaume à leur époque, malgré tout. Exactement comme le Seigneur a dit. Et ça, avant qu'il ne soit quelque chose. Alors, verset 21. Le bouc velu, c'est le roi de Yavin. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Yavin, c'est un autre nom pour la Grèce. Alors, attention! À l'époque où Daniel reçoit cette vision, c'était à la fin de l'époque archaïque grecque. Donc, on n'est pas encore aux grandes démocraties et avec tous ces philosophes et tout. On est encore un petit peu loin. Bien sûr, ils ont la poterie, ils ont quand même ces choses qu'on voit au Louvre avec des images des hommes en noir et tout. Mais on n'est pas encore à la Grande Grèce. Et surtout, c'était plusieurs villes avec des liens, des alliances qui étaient plus ou moins forts. Hein. On ne parle surtout pas d'un roi en Grèce. Il n'y avait pas de roi en Grèce. Et nous savons, par rapport à l'histoire, on allait vers la démocratie d'abord. Mais il parle d'un roi. Et il dit que cette corne, cette grande et magnifique corne, représente le premier roi. Qui est justement ce premier roi? Alexandre. Oui, Alexandre. Et ce qui est étonnant avec ça, c'est que Alexandre vient donc de Macédoine. Et c'est une région qu'on appelle la région des boucs. Et on parlait des gens qui venaient comme des boucs. Alors, vient ce grand donc bouc. Et qu'est-ce qu'ils disent? Que c'est le premier roi. Et regardez ce qu'a fait le grand bouc. Il va direct vers le bélier et il en piétine. Effectivement, Il y avait beaucoup de guerres entre les Perses et les Grecs. Jusqu'au moment où, enfin, finalement, les Grecs, ils en ont eu assez. Et puis, quand Alexandre prend la tête du royaume, de l'empire, c'était rapide. C'était à peu près en 2 ans. Il a terminé avec les Perses et les Mèdes. C'était très rapide, très efficace. Il brise les cornes et les impiétés. Alors, verset 22, en parlant de cette corne, elle fut brisée et les quatre qui s'élèvent à sa place sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas sa force. Et, dans l'histoire, comme on a vu la semaine dernière, dès qu'Alexandre meurt, donc ses généraux prennent sa place. Ils ont assassiné tous ses fils, et ce sont ces généraux maintenant qui se mettent et qui divisent le grand royaume en 4. Vers le nord, le sud, l'ouest et l'est. Et ça, c'est donc le nouveau ordre du monde. Et c'est là où on rejoint un petit peu chapitre 7. Et donc, notez ce qu'il dit là, à la fin, mais qui n'auront pas sa force. Et c'est vrai, puisque petit à petit, avec ces 4 rois, il y a un autre royaume qui monte derrière. C'était une république qui monte de plus en plus en puissance. C'est Rome. Mais ces 4 n'avaient pas la puissance pour maintenir. En fait, ils ont fait beaucoup de guerres entre eux, et on va en parler surtout dans les chapitres 11 et 12. Mais à la fin de leur règne, donc c'est jusqu'au moment où Rome commence à s'imposer, lorsque les pêcheurs seront consommés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Donc artificieux, il ne devait pas être roi. Impudent, donc méchant, malicieux. Sa puissance s'affirmera, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables destructions, réussira dans ses entreprises, détruira les puissances et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il y aura de l'arrogance dans le cœur. Il détruira beaucoup d'hommes qui vivaient tranquilles et s'élèvera contre le chef des chefs. Puis, il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Regardons donc ce qui nous manquait avec la boucle. La petite corne, qui était petite normalement, mais qui s'élevait jusqu'au toucher des étoiles, et même faire tomber quelques étoiles. Ça, c'est plutôt le roi artificieux. Très important. Cette corne est sur le bouc. Donc, on parle toujours de quel peuple ? Les Grecs, exactement. Très important parce que c'est là où beaucoup ont fait des mauvaises interprétations. Parce que qu'est-ce que nous avons lu la semaine dernière en chapitre 7 ? On a parlé aussi d'une petite corne, n'est-ce pas ? Qui a enlevé 3 autres cornes. Mais ça se trouvait sur quel animal ? Oui, la dernière, là, le plus grand et plus méchant, qui représentait quel royaume ? Rome. Donc vous voyez, ce sont 2 peuples totalement différents dont on parle. Et on parle toujours d'une petite corne. Donc c'est vrai qu'on peut voir quelque chose, puisque c'est le même genre de choses. Or, c'est 2 peuples différents dont on parle. Lorsqu'on parlait de Rome, c'était dans le langage araméen, donc pour tout le monde à comprendre. Lorsqu'on parle des Grecs, ici, dans ce passage, c'est destiné donc à ceux qui comprennent le hébreu. Alors, petite corne. Et qu'est-ce que ce corne a fait ? Il s'est élevé jusqu'aux armées des cieux. Alors là, on pourrait comprendre tout simplement comme, peut-être des choses célestes. Hein? Il fait tomber une partie des étoiles et puis il piétine ces étoiles. N'est-ce pas ? Or, qu'est-ce que nous avons lu dans l'interprétation? Est-ce que cet homme issu de la nation grecque, est-ce qu'il fait tomber des anges et les piétine dans l'interprétation? Non. Mais un peuple, des personnes. Et de toute façon, est-ce qu'il y avait un personnage, un homme dans l'histoire qui a pu se battre et gagner contre les anges dans sa force et pour les faire tomber par terre, pour les impiétiner comme ça? À la limite, on peut parler de Jacob et l'ange, mais bon, c'est pas du tout la même chose. Pas du tout. Mais qu'est-ce que ça nous dit concernant ces peuples? C'est pas n'importe qui, mais c'est un peuple très estimé, très, très proche donc de Dieu pour donner un tel nom comme ça, non? Si Dieu en parle comme ça, et puis il parle aussi de la plus beau des pays, ce n'est pas un hasard qu'on pense qu'il s'agit donc d'Israël. Le plus beau des pays. C'est vrai que quand même, quand... Oui, oui. Surtout quand il y a de l'eau. Il suffit juste de voyager dans le Golan et voir toute cette beauté aussi. Il y a la mer, même dans le désert, hein, c'est beau. Mais nous cherchons donc un Grec qui piétine le peuple juif, qui a beaucoup de succès. Donc il détruira les puissants et le peuple des saints. Et à cause de la prospérité et du succès des Cyrus, il y aura de l'arrogance dans le cœur. Et détruira beaucoup d'hommes qui vivaient tranquilles et s'élèvera contre le chef des chefs. Et c'est là où ça nous renvoie vers « Elle se lèvera jusqu'au chef de l'armée ». Encore « chef » avec un majuscule, hein? L'interprétation, le roi des rois. Donc dans son cœur, nous cherchons un homme grec qui dans l'histoire a fait un grand carnage parmi le peuple juif à l'époque où il s'y attendait pas, qui avait tellement de prétentions, donc qui se lève jusqu'à à vouloir être loué comme Dieu, donc, hein, jusqu'au chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Est-ce qu'il y a une personne comme ça dans l'histoire?
Aristote Epiphane.
Oui, cet homme aussi, il a apparu, donc Antiochus, donc qui vient donc sur scène, on va dire comme ça, juste avant que les Romains s'imposent. Ça colle bien. Aussi, est-ce qu'il était un roi artificieux? Ben oui, il était un roi artificieux et malicieux. En fait, on va en parler encore plus dans Daniel 11 et 12, mais en fait, ça devait être son frère qui devait être roi, mais il a tué son frère pour devenir roi. Alors, Antiochus 4, donc, il était ce genre de grec qui voulait que tout le monde parle grec. Alexandre, en fait, elle était comme ça. Il voulait helléniser le monde. C'était vraiment ce qui tenait à cœur. Mais une chose est assez intéressante. Avant d'arriver à Jérusalem, un grand prêtre, un sacrificateur, est sorti de Jérusalem à sa rencontre. Il lui montre le livre de Daniel. Alexandre fut tellement frappé par ça qu'il entre en Jérusalem et il loue le Seigneur devant le temple et il a épargné la ville de Jérusalem alors qu'il a dévasté tout le reste. Lui, il est ce même genre, donc une petite corne. Il veut helléniser tout le monde. Mais lui, par contre, il ne supporte pas qu'il y a donc ces juifs qui ne veulent pas accepter la culture grecque. et qui, parce qu'il se tient à leur culture, à leur langue encore. Je souligne ce fait que c'est écrit en hébreu, leur loi et tout. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on parle du crime et des péchés. Est-ce qu'il y avait du crime et du péché à cette époque? Oui, il y avait. Il se trouve que juste avant que cet homme commence à s'imposer, en fait, la raison pour laquelle il s'impose, c'était parce que il y avait beaucoup de gens à cette époque qui voulaient adopter la culture hellénistique, disant, bon, c'est le futur, c'est le maintenant, il faut donc que tout le monde devienne comme les Grecs. Et donc, de plus en plus, les gens étaient comme ça. Alors, il y avait quand même une petite partie des gens qui ne voulaient pas ça. Et à leur tête était un sacrificateur qui était honnête. Or, finalement, on a retiré cet homme honnête de ses fonctions et on a placé un autre sacrificateur à sa place qui s'appelle, et vous allez comprendre pourquoi quand je vous dis son nom, qui s'appelle Jason. Alors, d'où vient ce nom? Est-ce que c'est un nom grec? Oui, c'est un nom grec, ce n'est pas un nom hébreu. Donc, du coup, ça devient très politique pour la première fois. Et puis, il y avait un autre qui était encore pire, qui était du côté d'Antiochus. Et lui, en fait, plus ou moins, il a extorqué sa position. Il a acheté sa position de grand prêtre. Et puis, il y avait une espèce de division. Et donc, Antiochus, il vient vers Jérusalem pour défendre son homme, si vous voulez. En gros, je simplifie des choses, mais voilà. Et qu'est-ce qu'il fait dans sa fureur? Bon, il y avait d'autres choses aussi qui ajoutaient à ça. Dans sa fureur, il entre, je crois, en Jérusalem, même un jour de sabbat, pendant que les gens ne s'y attendaient pas. Il massacre tout le monde, détruit le temple et tout. Et il fait ériger dans le temple une statue de Zeus et il met sur l'autel un porc hein, et puis il fait sacrifier là, sur l'autel. Et c'est là où nous touchons le livre des Maccabées, pour votre connaissance aussi. Alors, est-ce que cet homme, Antiochus IV, est-ce qu'il avait des ambitions excessives? Oui. Et c'est même dans le nom qu'il a donné à lui-même. Ça ne suffisait pas d'être Antiochus IV. Non, il voulait que les gens l'appellent Antiochus Épiphane, qui veut dire le plus haut ou illustrissime. Alors, il a même fait imprimer de l'argent, des pièces de monnaie, en disant Antiochus Théos Épiphane. Donc, cette Zeus qui était dans le temple, en fait, voulait que les gens le louent en tant que Dieu. Les Juifs, donc les Maccabées, enfin les autres, ils ne voulaient pas ça. Et donc, les historiens ont même enregistré un peu de l'humour juif. Ils se moquaient de lui en l'appelant pas Antiochus Épiphane, mais Antiochus Épimane. C'est un jeu de mots qui veut dire le fou, en fait, hein, l'insensé. C'était quand même une époque singulière. Un homme qui avait énormément de haine. À la fin de sa carrière, on disait qu'il a tué à peu près, peut-être même, des centaines de milliers de Juifs. Encore une fois, ça, c'est avant la technologie des nazis, si vous voulez. C'est une époque très éloignée, mais c'est la même haine, c'est le même esprit. Et donc, la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, qu'elle rapporte à des temps éloignés, des temps des Maccabées. Alors, ce qui ajoute à l'importance de ceci, c'est que Vous savez, ça parle de quelle fête juive? Oui, tu triches. Hanouka, oui. Et c'est une fête que Jésus a célébrée aussi. Nous voyons que Jésus croyait effectivement en tout ça. Et une autre chose qui est très importante, c'est donc ces visions. Alors, comment interpréter donc ces soirs et ces matins? Et c'est là où viennent tous les problèmes de l'interprétation. Effectivement, on a commencé en parlant d'une mauvaise interprétation, en appelant soir et matin des années, et puis on projette d'autres choses, et on applique cette prophétie destinée à ceux qui parlent hébreu à l'Église. C'est pour ça qu'ils attendaient que Jésus revienne. Mais ce n'est pas ça ce qu'il dit. Hein. Il dit que c'est jusqu'au moment où le sacrifice sera rétabli. C'est ça ce qu'il dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si nous reprenons la date où il y avait ce miracle, est-ce que vous connaissez l'histoire de Hanouka? Il n'y avait pas suffisamment d'huile pour allumer les chandeliers. Mais il ne suffit pas de prendre un peu d'huile d'olive. Hein. Il fallait que ça soit de l'huile d'olive sanctifiée. Et on ne peut pas passer un coup de baguette magique, prononcer quelques paroles. Ça prend 7 jours. Miraculeusement, même s'il n'y avait qu'un petit peu juste pour une journée maximum, le Seigneur a permis que ça s'allume pendant 8 jours, jusqu'à ce qu'ils ont pu faire tous les rites nécessaires pour rétablir donc le sacrifice et tout. Alors, si nous prenons cette date-là et nous comptons en arrière, donc il y a 2 possibles interprétations, ça dépend de la façon dont nous comptons jour et nuit. Si on prend de façon... juif typique où la journée commence quand le soleil couche et puis on compte, donc ça donne une date. Et si on prend notre système donc de pensée en ce qui concerne jour et nuit, donc comme des jours et puis des nuits, ça donne 2 dates différentes. Alors, le premier, donc, qui nous donne une date plus large, c'est intéressant, c'est là à peu près où on a enlevé le bon sacrificateur de ses fonctions en tant que souverain sacrificateur. C'est là où donc il y avait ce péché et tout. Et l'autre nous amène plus loin donc dans les batailles avec Antiochus et puis les Juifs. C'est pour ça que les plus conservateurs, les gens pensent plutôt que c'est le premier donc quand il y avait ce péché, cette hellénisation du peuple, qui correspond mieux avec le texte, tout simplement. Mais on a dit quelque chose. On a dit que c'est aussi pour la fin des temps. Et c'est là où nous rejoignons l'autre corne aussi. L'autre dont on a étudié, ou dont on a parlé en chapitre 7. Parce que c'est là où nous parlons de l'antéchrist. Cet homme de perdition qui, selon 2 Thessaloniciens 2, entre dans le temple, arrête le sacrifice et veut se faire louer en tant que Dieu. Il est intéressant qu'en Jean chapitre 5, Jésus a dit, « Je ne suis pas venu en mon nom et vous ne m'avez pas cru, mais un autre vient en son nom, et celui-là, vous allez croire en lui. » Et c'est ça l'antéchrist. C'est celui qui vient en son propre nom. Ces choses sont cachées et ils vont être révélées d'une manière. Ceux qui cherchent maintenant, ils comprennent qu'il y avait un premier accomplissement avec Antiochus. Mais il y a une dernière et le reste du livre de Daniel revient beaucoup. Pourquoi est-ce qu'il revient beaucoup ? Sur l'antéchrist. Oui, pour que le peuple de Dieu soit vigilant et qu'il ne soit pas trompé. Comme Jésus a dit, si quelqu'un dit, le Messie est ici,
n'allez pas. Mais c'est ça, en fait. Traduisez un petit peu le mot antéchrist. Donc, c'est anti-messie. Et le messie, normalement, ça vient pour qui? Le peuple juif. Ça leur concerne, exactement comme Jésus a dit aussi. Alors, ce thème va se développer de plus en plus au fur et à mesure que nous allons continuer avec chapitre 9, chapitre 10, 11 et 12. Encore une fois, l'Église, oui, on connaît ces choses, mais ce n'est pas aussi développé dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que, comme on a dit dimanche, nous attendons que, avec le son de la trompette de l'archange, donc que Jésus revient, donc, et que nous soyons changés, et que nous venons à sa rencontre dans les airs. Nous attendons donc Jésus-Christ, et pas l'Antéchrist. Mais il est important de le savoir, de connaître. Et je vais juste terminer avec ce qu'on a en Romains chapitre 11, verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, quand on parle encore des mystères, afin que vous ne vous regardiez pas comme sages. Il y a endurcissement partiel d'Israël jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée quand on rejoint le Seigneur dans les airs. Ainsi, tout Israël sera sauvé selon ce qui est écrit. Le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Donc, Jacob, donc Israël, quelque part, ils vont se réveiller. On en parlera au fur et à mesure que nous allons voir les prophètes de l'Ancien Testament, parce qu'ils vont décrire parfaitement tout ça pour nous. Donc, c'est ça ce qui va arriver. Dieu va élargir leur connaissance, comme il dit en Daniel. C'est pour le temps de la fin. Un jour, ils vont réaliser ce qui se passe. Et moi, Daniel, je fus plusieurs jours affaibli et malade. Affaibli et malade. Pourquoi? Certainement parce que c'est lourd comme vision. Mais pas seulement ça. Il a vu la souffrance de son peuple. Je ne sais pas pour vous, mais quand je vois, par exemple, je suis allé au mémorial de la Shoah, ici à Paris, et après j'étais malade. Mais imaginez ce que Daniel a vu. Il a vu toute cette souffrance pour son peuple. Effectivement, plusieurs jours, affaibli et malade. Et ces choses-là doivent aussi nous affecter pour que, quand nous parlons du fin des temps, oui, il y a une certaine joie pour nous, mais c'est comme si nous marchons sur la terre sacrée aussi. Hein. Nous parlons aussi des choses qui ne vont pas être assez agréables pour tout le monde. C'est pour ça aussi qu'on en parle, pour les arracher, justement. Et puis je me levais et m'occupais des affaires du roi. J'étais dans la stupeur à cause de la vision. Je ne la comprenais point. Dernière chose, hein. Daniel, malgré tout ça, il faisait son travail. Daniel, en ce qui concerne Dieu, il avait la bonne attitude. Hein. Il voyait les choses telles quelles et il ne les prenait pas à la légère, mais avec tout le sérieux qu'il méritait. Mais lorsqu'il c'était l'heure de travailler, il se levait comme un homme pour travailler. Et c'est important. Oui, on sert Dieu, mais nous servons Dieu dans le monde. Et ce n'est jamais une bonne chose de poser un jour de congé pour un jeune, par exemple. Non, nous servons Dieu, même au travail. Et si nous sommes en relation avec le Seigneur, c'est pour améliorer aussi le travail. Pour travailler mieux, il peut nous aider. Prions.